pas parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Mentionner les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Bonjour et bienvenue à cette édition de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, on vous parle de l'Amérique latine avec un topo préparé par Nicolas. Également, on va vous parler des mobilisations du FRAPRU pour le logement social qui avait une rencontre hier avec le ministre obtenue grâce à une occupation. On vous fera également une chronique culturelle slamée. Et bien sûr, on va commencer par une chronique des apatrides anonyme sur les enjeux d'immigration, une petite revue de l'année 2010. Restez avec nous.
Sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui est la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Avec des nouvelles de Mohamed Arkat, l'un des arrêtés en vertu d'un certificat de sécurité au Canada. Donc, il y a eu un jugement qui a été rendu le 9 décembre dernier par le fameux juge Noël, celui qui était omniprésent dans ces questions-là. Donc, le jugement est tombé. Il maintient le certificat de sécurité qui avait été maintenu contre Mohamed Arkat pour différentes raisons. Entre autres, il considère que l'aspect constitutionnel a été respecté, Monsieur Arkat est toujours une menace à la sécurité nationale, entre autres. Donc, les avocats ont pris leur décision. Finalement, ils vont faire appel. Ça a été annoncé il y a quelques jours. Ça suspend donc toutes les procédures d'extradition qui pesaient contre Monsieur Arkat. Et l'appel, on est assez confiant qu'il devrait être accepté. Ce qui est un peu bizarre, un peu particulier dans nos procédures canadiennes, c'est que c'est le juge Noël lui-même qui décide si oui ou non ça s'en va en appel. Donc, il est un peu jugé parti. Mais les avocats et l'entourage de M. Arkat sont assez confiants parce que pour un juge, c'est une procédure qui lui permettrait en quelque sorte de valider son propre jugement, de l'envoyer vers une instance supérieure qui confirmerait que son jugement est bon et que l'aspect constitutionnel aurait été respecté. Donc, les procédures d'extradition attendraient à la fin, évidemment, des procédures d'appel et des audiences, évidemment, et jusqu'à ce qu'un jugement ultérieur soit rendu concernant cet appel-là. Ensuite, évidemment, si l'appel est rejeté, les procédures d'extradition sont maintenues. Ça irait en commission d'évaluation selon les risques de renvoi. Et le ministre de l'Immigration prendrait une décision finale, mais ça peut être assez long. Bon, on n'a aucune idée des délais. Par contre, la décision en ce qui concerne est-ce que oui ou non, il va avoir un appel, on va avoir ça bientôt. Comme je disais, oui, l'entourage, les sympathisants, les avocats sont assez confiants que l'appel va être accepté. Par contre, évidemment, pour M. Arkat et sa femme, le moral est pas très bon, d'après ce que j'ai cru comprendre. J'ai parlé à des proches de M. Arkat aujourd'hui et c'est une vraie claque d'en face qu'ils ont reçue après toutes les procédures, toutes les années. Donc, il est toujours sous de strictes conditions, donc bracelet GPS, assignation à résidence. Donc, pour plus de détails, on peut aller sur justiceforarkat.com. Entre-temps, il y a une pétition qu'on peut signer qui est arcatstatement.com, donc une pétition pour faire valoir votre désaccord envers la décision du juge Noël. Et évidemment, il y a un appel à la mobilisation qui va venir, peut-être une manifestation en janvier. Donc, il faut rester informé pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Maintenant, oui, 2010 achève. L'un des événements marquants de 2010, évidemment, c'est en janvier dernier, il y a à peu près un an, le fameux tremblement de terre en Haïti qui a tué plus de 200 000 personnes. La ministre provinciale de l'immigration de l'époque avait annoncé un programme spécial pour faciliter le parrainage de jusqu'à 3 000 Haïtiens. On disait que ça allait être des procédures qui allaient être facilitées, qui allaient être accélérées, des critères qui allaient être abaissés. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. Ça n'a pas non plus été un programme spécial. On a avancé le chiffre de 3 000 en espérant qu'on reçoive 3 000 demandes qui puissent être acceptées. Par contre, ça a toujours été selon les mêmes critères et à l'intérieur des mêmes quotas que ce qui était prévu par le provincial pour les demandes de parrainage. Donc, on n'a pas ouvert davantage la porte de l'immigration au Québec. On a juste affirmé, sans trop de mesures spéciales, qu'on mettrait peut-être la priorité sur les Haïtiens. Maintenant, ça a été très, très compliqué. Je vous ferai un bilan en chiffres à la toute fin. Mais ceux qui ont souhaité parrainer des proches en Haïti, ça a été vraiment très, très difficile. Je dirais, premièrement, il fallait pour les personnes en Haïti regrouper tous les documents qui prouvent leur identité, qui démontrent qu'ils sont en bonne santé, qui démontrent qu'ils n'ont pas de casier de dossier criminel. Mais comme on le sait, l'administration et le gouvernement sont à peu près anéantis en Haïti. Donc, ça joue un peu de corruption, ça a joué beaucoup de trafic de faux documents. Ça n'a vraiment pas été facile. Mais finalement, on a reçu jusqu'à 8000 demandes, à ce qu'il paraît. Donc, au mois de juillet dernier, la ministre a décidé de fermer le programme, de dire, écoutez, on prend les 3000 qui sont arrivés, les 3000 premières, on va les traiter. Par contre, de ces 3000-là, il y en a plus de la moitié qui ont été rejetés pour faute de documents absents, pour toutes sortes de raisons administratives et techniques. Pour des raisons de santé aussi, on sait bien que malgré les conditions sanitaires, les conditions générales, la santé des gens pouvait ne pas être à leur meilleur, si on veut, mais ça a été une des raisons qui ont permis de rejeter beaucoup de demandes. Aussi, quelques chiffres, par exemple, pour parrainer quelqu'un, ben ça veut dire qu'on se porte garant à la fois du comportement de la personne et de ses finances. Donc, on s'engage à fournir ou à subvenir aux besoins de la personne parrainée. Donc, le revenu minimal qui était établi pour être qualifié en tant que parrain était d'à peu près 36 000 $. Le revenu moyen au Québec est de 34 000 $. Et le revenu moyen des Québécois d'origine haïtienne au Québec est de 23 000 $. Donc, évidemment, à cause du critère financier, il y a encore plus de demandes qui ont dû être rejetées. Je parlais tantôt à une collègue d'origine haïtienne qui souhaite parrainer sa sœur. Elle a eu beaucoup de difficultés, mais elle se qualifiait financièrement. Il y a eu, par contre, un problème supplémentaire qui s'est rajouté. Une fois tous les documents, certificat de naissance, certificat de santé regroupés, il fallait envoyer les originaux à Québec pour pouvoir constituer un dossier, l'ouvrir, le faire valider. Maintenant, une fois le certificat émis par Québec, les demandes devaient être transférées à Ottawa pour évaluation des dossiers criminels, évaluation de santé, évaluation économique. Par contre, la plupart des demandeurs n'étaient pas informés que le dossier n'était pas transféré d'un gouvernement à l'autre. Alors, la plupart des gens attendaient, mais qu'est-ce que fait Ottawa? Et à force de s'informer, bien, il y a beaucoup de groupes de pression, de groupes qui ont fini par comprendre que le dossier devait être reconstitué. Des nouvelles pièces originales devaient être envoyées à Ottawa. Et entre-temps, bien, il fallait que les parrains et les personnes qui souhaitaient être parrainées puissent communiquer entre elles et bien, reconstituer un dossier, l'envoyer par courrier ici, ensuite l'envoyer par courrier à Ottawa. Donc, ça a énormément retardé la plupart des demandes de parrainage de la part d'Haïtiens. Donc, actuellement, au fédéral, à peu près un an après le tremblement de terre, il y a 540 dossiers qui sont en cours d'évaluation. Certains ont déjà été rejetés. L'objectif de 3 000 par Québec, donc on ne sait pas trop si c'est réaliste, puis même on est en droit de penser que, ben en fait, même on n'est pas en droit de penser, on peut affirmer que Québec a reçu moins d'immigrants cette année à cause de ce cafouillage-là que par les autres années. Donc, finalement, essayer de faire entrer les demandes de parrainage des Haïtiens avec les conditions extrêmement compliquées qui sévissent là-bas, ça a tellement fait un processus d'une lenteur incomparable que finalement, on a rejeté beaucoup de gens d'autres pays parce que les quotas étaient fermés et qu'on disait vouloir accepter plus d'Haïtiens qui n'ont pas été acceptés. Donc, le chiffre magique, au mois d'octobre dernier, donc 10 mois après le tremblement de terre, il y avait combien d'Haïtiens qui avaient été acceptés au Québec par le programme de parrainage? Question quiz.
10.
18. Ah. T'étais en dessous, franchement, t'es pessimiste.
J'aurais aimé ça me tromper.
Ben, en tout cas, t'étais à peu près dans le bon bracket, mais c'est ça, j'ai pas les chiffres de décembre dernier, c'est assez difficile de donner l'information. On peut peut-être estimer à 25. On promet que ce programme-là, qui n'en est pas un, sera peut-être reconduit en 2011. Mais comme je vous disais, il n'y a pas de programme spécial. C'est pas vrai. C'est les mêmes critères, c'est les mêmes procédures dans des conditions qui sont plus difficiles que beaucoup de communautés. Donc, on va souhaiter bonne chance à la plupart des Haïtiens qui vivent au Québec qui souhaitent parrainer leurs proches. Il y a même des personnes dont les demandes sont toujours en cours d'évaluation par les fédérales qui sont mortes entre-temps.
Okay.
Fait que ça me donne un peu une idée de la lenteur du processus. Là, mais...
Et bien sûr, c'est bonne nouvelle.
Ben, on va espérer que 2011 soit meilleur à ce chapitre-là. On va souhaiter bonne chance à tout le monde.
Hein. Alors, on se retrouve avec des chroniques des apatrides anonymes en 2011 et notamment plus de nouvelles sur les processus de demande de refuge. Merci beaucoup, Simon, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Vous écoutiez une entrevue avec les apatrides anonymes et on va continuer en musique dans un instant avec Cavalier Noir, la chanson Les Maîtres du Monde. Vous écoutez En Bas à Gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville. Et c'est la chanson de Cavalier Noir. Bon, sinon on va continuer tout de suite avec la chronique de Nicolas.
Que de dónde son, que de dónde son,
que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada y de dónde son, que de dónde son, que son de la barricada.
Alors, cette semaine, des nouvelles du Venezuela, un point important qui a été pris par le président Hugo Chavez. En fait, on a annoncé vendredi dernier la prise de 47 propriétés terriennes qui se situent au sud du lac Maracaibo, dans l'état de Zulia, au nord-est du Venezuela. Les terres qui ont été récupérées, en fait, c'est des terres qui appartenaient à des riches propriétaires qui avaient, en fait, le support des paramilitaires. Si on regarde et on écoute ce qui a été dit, selon le mandataire vénézuélien, le président a envoyé en hélicoptère toute une armée civico-militaire afin de récupérer les terres parce que les propriétaires terriens de cette région-là n'hésitent pas à mentionner qu'ils ont des armes et l'appui des paramilitaires. Hugo Chavez a annoncé la nouvelle durant la séance d'inauguration de l'Institut supérieur d'études politiques du Parti socialiste uni du Venezuela, célébré au salon bicentenaire de l'hôtel Alba Caracas dans la capitale du pays. En fait, les 47 propriétés terriennes du sud du lac ont déjà été prises, a affirmé le gouverneur qui citait le ministre de l'Agriculture et des Terres, Juan Carlos Loyo. Et ce moyen-là, il avait déjà été retardé parce que ça avait été quelque chose qui avait été mis en place depuis un certain nombre de semaines. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans la région où les terres ont été récupérées, l'indice de Gini, qui est en fait un indicateur de la concentration des terres, est extrêmement élevé. Et puis, on est dans une région où, justement, vit en fait encore complètement les relations d'esclavagisme. Chavez disait directement, là-bas, abonde l'esclavage, même pas le capitalisme, c'est encore du pur esclavage. Donc, des gens qui sont dans des conditions absolument désastreuses. On parle de gens qui sont payés directement par la nourriture ou qui sont tout simplement pas payés et qui vivent dans des conditions au niveau de l'habitation qui sont extrêmement précaires. Il faut qu'on se rappelle que dans l'ensemble de l'Amérique latine, un des problèmes les plus importants puis qui est à la base de l'injustice sociale ainsi que de la misère vécue par des millions de personnes provient justement de la concentration des terres. Environ 90% des terres agricoles sont possédées par 5% de la population. Puis pourtant, le manque d'accès à la terre est le problème principal de la souveraineté puis de la sécurité alimentaire. Puis la majorité de ces terres-là ont été usurpées aux populations autochtones durant le processus de colonisation, mais aussi été concentrées au travers des différentes dictatures qui ont été mises en place, puis durant la mécanisation et l'industrialisation de l'agriculture qui a eu lieu depuis, en fait, la Révolution verte dans les années 50, 60, 70 et 80. Alors, c'est ça, c'est vraiment important de aussi noter que, par exemple, quand on parle du problème de souveraineté alimentaire puis de sécurité alimentaire depuis les organismes des Nations Unies, le Food and Agriculture Organization, jamais presque n'est fait mention du problème de l'accès à la terre, de la concentration des terres. Toujours, on parle de solutions techniques pour répondre à un problème qui est profondément social et économique. Et puis, là, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de ce que Hugo Chavez a mis en place, ben, c'est de redistribuer les terres aux populations. Donc, la région du sud du lac au Venezuela, là, les terres ont été récupérées. À cet endroit-là, la concentration des terres est encore plus accentuée parce que, en fait, se retrouvent dans ce coin-là les meilleures terres agricoles du pays. Puis comme elles ont été usurpées aux peuples natifs puis aux paysans, le pays considère maintenant sous le socialisme qu'elle appartient au pays, donc il les récupère puis les nationalise. Puis les occupants actuels de ces terres, tout ce qu'ils détiennent en fait comme preuve de propriété, soi-disant, en fait c'est un document de vente et achat, puis ils détiennent l'ensemble de l'infrastructure de l'activité agricole, mais la terre, elle, demeure publique, puis c'est ça qui est en train de se prôner maintenant par le nouveau gouvernement. Donc, les terres récupérées des 47 propriétés qui ont été annoncées ce vendredi dernier totalisent 20 000 hectares, puis ont été saisies comme moyen pour affronter l'urgence dans laquelle se retrouvent des milliers de personnes qui ont perdu leur maison suite à des très importantes précipitations à la fin du mois de novembre. Au cours de ces précipitations-là, il y a énormément de gens qui ont vraiment perdu complètement leur accès, leur maison, qui était déjà précaire. On a aussi 35 personnes qui sont mortes, puis 130 000 autres qui ont été sévèrement affectées. Donc, à partir de ça, le 8 décembre, le président de la République a ordonné la saisie de propriétés terriennes en considérant en fait cette décision-là comme faisant partie d'une action révolutionnaire pour approfondir la transformation structurelle d'un monde inéquitable. Donc, la redistribution des terres, toutes les terres qui ont été récupérées des 47 propriétés, il a été promis qu'ils seront remises directement à des paysans puis des paysannes du pays. Puis, il est à savoir qu'au travers du pays, on a déjà presque 3 millions d'hectares qui ont été récupérés, puis que ça a bénéficié à des centaines de milliers de paysans, en plus de leur donner l'autonomie puis une possibilité de développement endogène. Puis, ce qu'on veut dire par là, en fait, c'est de pouvoir avoir les moyens, les ressources pour se développer de la manière que eux le déterminent. Détermine plutôt que ce soit déterminé par l'extérieur. Alors, on a une citation de Braulio Alvarez, membre du Front paysan Ezequiel du Venezuela, qui affirme que les avancées en termes de bien-être que nous obtenons sont indiscutables, puis les propriétaires terriens en sont bien conscients. Puis il rappelle que la présence des paramilitaires à la solde des propriétaires terriens ont occasionné la mort de plus de 248 paysans dans les derniers temps, puis on est pourtant au Venezuela. Donc, une nouvelle très intéressante en termes de justice sociale, une nouvelle qui nous permet d'avancer au niveau de ce que les gens puissent avoir accès à leurs propres ressources pour déterminer leur propre développement. C'est sûr que c'est un pas qui, en réalité, devrait se donner à travers de plusieurs pays du monde. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que la majorité des gens ne pourront pas avoir accès à la terre, on va avoir des problèmes majeurs en tant que de pouvoir de s'auto-alimenter. Mais en plus, ça continue à perpétuer des rapports de pouvoir où la majorité sont démunis du nécessaire pour vivre et où quelques-uns peuvent, après ça, faire chanter ces gens-là et les faire travailler pour des cents au travers des systèmes de sweatshop et donc faire fonctionner les économies néolibérales comme la nôtre. Donc, c'est sûr que si on analyse un peu tout ce qui est fait au Venezuela, on peut voir que depuis une dynamique un peu plus anti-autoritaire, il y a certains pas par rapport au décisions qui sont prises par le gouvernement socialiste avec lesquelles on peut être un peu douteux ou un peu en désaccord, mais par contre, on peut voir aussi qu'au niveau économique, il y a un réel travail qui est fait pour justement redonner à l'ensemble de la population les moyens les bases nécessaires pour leur bon développement, puis justement générer par ces moyens-là une égalité plus grande. Parce que si on parle, nous autres, dans notre économie et dans notre système politique capitaliste d'une supposée démocratie, il faut bien savoir que la majorité d'entre nous sommes subordonnés économiquement et que donc on ne peut pas réellement faire ce qu'on a envie. Donc, un pas très important, un pas qui doit se donner à travers de toute l'Amérique latine et de tout le monde et qui est certainement très difficile à faire et peu appuyé par les grands pouvoirs comme ceux des États-Unis. Alors, c'était des nouvelles du Venezuela en direct de La Voz de la Loi, Telesur TV, un poste vraiment important de la radio de Venezuela.
Merci beaucoup, Nicolas, pour ces nouvelles. Alors, on va cette fois-ci réellement continuer en musique avec les Maîtres du Monde de Cavalier Noir. Et on se retrouve ensuite pour la suite de la programmation d'En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
La grande république raciste, la démocratie, corruption budgétaire, intervention militaire, le pouvoir par la peur avec la menace nucléaire. La pauvreté persiste pour la plupart des Yankees, ils ont du cash pour les GI mais pas pour sauver des vies. CIA, coup d'état, s'en coule encore, la Maison Blanche complice, signe les arrêts. Les intérêts américains assurés par la dictature, y'a plein de peuples qui se retrouvent sur des régimes de torture. L'or capitaliste de droit maintenu sur pied, le monde des affaires dominant, les travailleurs exploités, supposés défenseurs, la justice et de la liberté, leur permis de tuer, sans scrupule toujours censurés. Sans remords, rien qu'en toute forme de résistance, pour pas inspirer d'autres nations à l'indépendance. Tu comptes le scam, ce sale hypocrite, qui ferait n'importe quoi pour l'argent comme un junkie pour son hit. Rien pour apaiser son abominable appétit, regarde dans le reste du monde avec le plus grand des mépris. Dieu, l'honneur, la patrie, ainsi que j'ai saï. Si la terre a un nombril, il s'appelle États-Unis.
Le pays des temps, unis par le sein, assassinat, mine d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaudin, l'infanterie remplie de feu. Au prix de tout, pour un projet de toi dans leur drapeau. Le pays des temps, unis par le sein, assassinat, mine d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaudin, l'infanterie remplie de feu. Au prix de tout, pour un projet de toi dans leur drapeau.
On va se crasher. Jugement dernier pour une nation menacée. Assis sur le toit du monde, King of the Hill. Gardien de la paix sur les territoires hostiles. Ingérence, insouciance, aucune tolérance. CIA, NSA, paranoïa, méfiance. Font plus la différence. L'ennemi, c'est le peuple, interne ou externe. Problème, on l'enferme. En déploiement, Hollywood style pour les médias. C'est la guérilla. Bienvenue aux USA. Attentat terroriste, milice, raciste. Fini le communisme. On traque des islamistes. Une vie de rêve dans le ghetto, des dealers en beamer, la banlieue et les serial killers. American dream, the land of the free. Mentalité Wesley, on vit pour de la monnaie. Walt Disney, Wall Street, Walmart, what, what. Les millions qui assurent ta soumission. Pendant que les paivots font du sel, smoke les gens à coups de 40 gels dans le fond des ruelles. Criminalité anarchique, magot diplomatique. Ticket fixe dans la première puissance atomique. Tactique, tactique, leur logistique pour la maison mère. Y'a personne sa terre qui émet l'univers.
Assassinat, coup d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaudin, les fonderies remplies de feu. Au prêt à tout, pour un autre étoile dans leur drapeau. Le pays des temps, uni par le sein. Assassinat, coup d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaudin, les fonderies remplies de feu. Au prêt à tout, pour un autre étoile dans leur drapeau. Le pays des temps, uni par le sein. Assassinat, coup d'argent, pas de mandat, y'a pas de temps. Armée chaudin, les fonderies remplies de feu. Au prêt à tout.
Alors
Alors, l'accès, le problème d'accès à la terre en Amérique latine et en Afrique et en Asie est un très grand problème, de plus en plus en Amérique du Nord et en Europe aussi. On rappelle qu'au Venezuela, en ce moment, il y a un processus important de répartition des terres. On a récupéré 3 millions de terres qui ont été redistribuées à des centaines de milliers de paysans. Par contre, juste à côté, on a la Colombie qui, elle, est dans un système extrêmement basé sur le néolibéralisme et le système capitalisme à l'outrance. On va voir et analyser rapidement comment fonctionne justement la violence et la monopolisation des terres par là.
Alors, Nicolas, on verra pas tout ça en quelques minutes, mais peut-être juste donner un exemple de la situation. Par exemple, si on prend des communautés afrodescendantes dans le Chocó, dont on suit le cas, je fais partie du projet Accompagnement Solidarité Colombie qui suit l'évolution du processus de revendication pour leurs terres de ces communautés. Des communautés qui, fin des années 90, début des années 2000, ont subi une vague de violence très, très intense, qui les a amenés à être obligés de sortir de leur territoire, se réfugier dans la jungle. Je vous passe les histoires de massacres horribles et des têtes coupées d'enfants et compagnie qui vous sied sûrement pas au déjeuner. Et,
mais peut-être seulement mentionner que c'était une opération militaire, donc avec bombardement par l'armée colombienne, alors qu'il y avait des incursions au sol par les troupes paramilitaires.
Donc c'est ça, on observe une stratégie de l'État qui est de faire le travail sale d'une main avec des troupes supposément illégales et des troupes militaires qui en fait fonctionnent ensemble. Donc une opération orchestrée et d'ailleurs financée par des entreprises pour s'approprier des terres. Comme de fait, quelques années plus tard, sur les quelques 10 000 hectares de terres ont été illégalement occupés par des compagnies. Et depuis, donc, il y a un processus juridique en parallèle des communautés qui exigent l'accès à leurs terres. Et elles ont gagné au niveau national, international, à tous les niveaux. Il y a un ordre en ce moment de leur restituer leur terre. Cet ordre est en fait depuis plusieurs mois. Mais qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à l'heure où est-ce que juridiquement les communautés gagnent, eh bien, c'est le réarmement de troupes paramilitaires sur le terrain et une augmentation constante de la violence, des menaces de mort qui n'ont jamais totalement disparu, mais une réintensification. Alors, on observe bien que peu importe les stratégies, il y a un ordre établi qui a l'intention de s'approprier cette terre-là. Puis si ça se fait pas à las buenas, ça se fait à las malas, comme on dit par là-bas. Donc si c'est pas proprement, ben ça va se faire salement et ça va se faire par la violence. Fait que c'est aussi un élément important à prendre en compte pour comprendre et analyser les conflits.
Puis il faut dire que si dans tous les pays d'Amérique latine où en fait tous les pays ont connu des troupes paramilitaires qui à prime abord au début étaient formées pour protéger les territoires privés des grands propriétaires fonciers contre les paysans affamés, contre les gens qui réclamaient un accès à la terre. Et dans le cas de Colombie, comme dans d'autres pays, c'est passé à un stade plus extrême où la stratégie paramilitaire vise non pas seulement à protéger les terres, mais à vraiment orchestrer une contre-réforme agraire au niveau national pour réapproprier les terres en faveur surtout du capital transnational. C'est ce qui va conclure cette brève chronique.
Sur les terres dans Amérique latine.
Cette année, pour Noël, faites un cadeau à l'environnement, consommez autrement. Contribuez à votre manière à diminuer la quantité de déchets par l'adoption de meilleures habitudes de consommation. Adoptez le transport collectif pour votre magasinage des fêtes, pensez à des emballages réutilisables ou encore offrez la culture en cadeau. En suivant ces conseils, vous faites preuve d'un comportement éco-responsable. Faites rimer achat des fêtes avec fini le casse-tête. Pour plus d'informations, rendez-vous au ville.montréal.qc.ca/consommer-autrement. Un message de la Ville de Montréal.
Ici Judith Ouimet, sur les ondes de Radio Centre-Ville, je vous propose une émission entièrement consacrée à la danse et à ses artisans. C'est un rendez-vous hebdomadaire tous les jeudis dès 13h.
Stéphane Pagliaro qui vous parle. Je vous donne rendez-vous tous les mercredis de 15h à 16h pour les Tremplin Nouvelle Vague. Entendre de nouveaux artistes, d'incontournables chansons, de musique de film, d'inoubliables sketchs et de patchwork inédits. Les Tremplin Nouvelle Vague, votre émission sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, la radio multilingue de Montréal.
Mmh. Bonjour, moi je m'appelle Gabriel, puis lui c'est mon petit frère Samuel. Allô? En tant que porte-parole d'Opération Nez Rouge, là, ben, on doit vous rappeler que ça prend un party, vous êtes un petit peu gorlot. Ben, appelez un ami, un taxi ou Nez Rouge. Appelez Nez Rouge, appelez Nez Rouge. Puis si ça vous tente de vivre une soirée inoubliable, là, ben offrez donc vos services comme raccompagnateur. Embarquez avec nous, avec Opération Nez Rouge. 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM. Depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Pas de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance en ce monde, mais je suis de ceux qui pensent et affirment qu'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, amoindrir, limiter, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social, comme la lèpre était une maladie du corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a disparu. Les législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse, car en pareille matière, tant que le possible n'est pas fait, le devoir n'est pas rempli.
Loin d'être une allégeance à un quelconque référent littéraire, nous retenons du père Hugo, le meilleur de ce bourgeois éclairé, qui traversa son siècle en s'arrangeant avec son éducation monarchique, passant par les honneurs d'un pair de France, jusqu'à l'idéal républicain. Ce réformiste, témoin magistral des soubresauts civils et de la naissance du prolétariat, a su faire parler son époque.
Messieurs, j'aborde ici le vif de la question. Voulez-vous savoir où elle en est, la misère ? Voulez-vous savoir jusqu'où elle peut aller ? Jusqu'où elle va ? Je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen-Âge, je dis en France, je dis à Paris et au temps où nous vivons. Voulez-vous des faits ? Comment veut-on guérir le mal si l'on ne sonde pas les plaies ?
Les plaies ouvertes à la hache à l'église Saint-Bernard, les plaies périphériques entendues comme dommages, collatéraux, les stigmates de la honte, de Sangatte à Cachan. Les mêmes cicatrices s'ouvrent encore, puisque jamais refermées. Il y a l'idée, il y a la question, et il y a les faits.
Voici donc ces faits. Il y a dans Paris, je n'hésite pas à les citer, ces faits tristes mais nécessaires à révéler, je voudrais qu'ils éclatent au grand jour. Il y a dans Paris, il y a des rues, des maisons où des familles entières vivent pêle-mêle et n'ayant pour lit, pour vêtements que des chiffons infects ramassés dans le fumier des villes, où des créatures humaines s'enfouissent toutes vivantes pour échapper au froid de l'hiver. Voilà un fait. En voici d'autres. Ces jours derniers, un homme est mort de faim à la lettre. On a constaté après sa mort qu'il n'avait pas mangé depuis 6 jours. Voulez-vous autre chose ? Le mois passé, on a trouvé une mère et ses 4 enfants qui cherchaient leur nourriture dans les débris immondes des charniers de Montfaucon. Eh bien, je dis que ce sont là des choses qui ne doivent pas être. Je dis que la société doit dépenser toute sa force, toute son intelligence et sa volonté pour que de telles choses ne soient pas. Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la société tout entière. Je m'en sens, moi qui parle, complice et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts envers l'homme, mais que ce sont des crimes. Je voudrais que cette assemblée n'eût qu'une seule âme pour marcher à ce grand but, l'abolition de la misère. Je ne m'adresse pas à votre générosité. Je m'adresse à ce qu'il y a de plus sérieux dans le sentiment politique.
Le sentiment politique ?
J'accuse l'État, prétendu garant de faillir à ses devoirs, et les plus fondamentaux même, quand ce ne serait que ceux instruits par la Déclaration des droits de l'homme, stipulant que nous sommes tous égaux devant la loi. J'accuse cet état de fait dont la responsabilité revient à l'État. J'accuse la politique étatique de n'être que ce qu'elle est, une oligarchie politicarde à des années-lumière du sens politique du terme grec et dont la pratique serait au service de la cité. J'accuse le nationalisme érigé en front commun de pensée, de comportement et qui prône dans ses flatulences et ronds ponctuels l'exclusion, la discrimination, la manipulation, la domination, l'exploitation, l'effraction des consciences, l'infraction du droit social, économique, civil, pénal. J'accuse cette même oligarchie de nous contraindre à la pensée unique et télécrate par induction de planification culturelle, sociale, économique, historique.
Comme je vous le disais
Comme je vous le disais tout à l'heure, vous venez avec le concours de l'armée et de toutes les forces vives du pays. Vous venez de raffermir l'État.
Vous n'avez reculé devant aucun péril. Vous avez sauvé la société régulière, le gouvernement légal, les institutions, la paix publique. Vous avez fait une chose considérable. Eh bien, vous n'avez rien fait. J'insiste sur ce point. Vous n'avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de vous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui travaillent peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont vieux peuvent être sans asile, tant qu'on meurt de faim dans nos villes, tant qu'il n'y a pas de loi fraternelle, vous n'avez rien fait. Je le répète, en terminant, ce n'est pas à votre générosité que je m'adresse, c'est à votre sagesse, et je vous conjure d'y réfléchir. Faites maintenant des lois contre la misère.
Invité récemment à un colloque de la Banque mondiale, dont le titre était
« La pauvreté, une atteinte aux droits de l'homme ».
J'affirme que, aujourd'hui, c'est la richesse qui est une menace pour les droits de l'homme.
Les rapports de domination sont ainsi faits, et 1789 n'y a rien changé. De la monarchie à la bourgeoisie, seul le vocabulaire change. Héréditaire, la bourgeoisie se consacre aussi en bourse. Tout comme l'aristocratie se faisait en cours. Que les cours soient monarchiques ou boursières, où est la différence pour nous et tous les autres, n'y ayant pas droit de citer? Qui n'en rêve de ces univers de facilité? Le loto, le gros lot, superbe d'abondance. Voilà qui réglerait tous les problèmes. La villa au bord de mer, le yacht à faire baver d'envie le voisinage, les serviteurs, les voitures, les usines, les terres, les biens, quoi.
Français? Faut de la maille. Peut pas être français avec moins de 1000 euros par mois, vieux. Français, faut de la place. Peut pas être français assis dans 40 mètres carrés. Français, faut du temps, mec. C'est pas en courant entre l'usine, les acédiques et la NPE que tu peux te poser pour la France.
On croit du nombre faire une identité. Un leurre, bien souvent. La misère est nécessairement et historiquement de classe. Loin de produire la fraternité, la misère produit de la misère et les dominants recrutent toujours parmi les classes inférieures pour réprimer les subversifs qui contestent leurs conditions.
Souhait d'universaliser des questions d'aujourd'hui. Le texte. Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Écrit en 1848, fait résonner 160 ans plus tard. La constance de la lutte. Des écrits actuels, articulés autour d'extraits de Victor Hugo, parcourent cette expérience comme autant de miroirs. À réfléchir.
Alors, vous êtes toujours à Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'émission En bas à gauche et c'est notre chronique culturelle. En fait, vous venez d'entendre le premier mouvement d'un album intitulé « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », un CD qui m'a complètement charmée et que je vous invite très chaudement à découvrir. Alors, comme les artistes l'expliquaient, il s'agit d'un projet de création artistique qui propose une réinterprétation des textes de Victor Hugo sur un fond de musique slam et abstract hip-hop. Alors, comme vous avez pu le constater dans le mouvement 1, la première pièce musicale, ça mêle des extraits de Victor Hugo et des textes originaux qui ont été inspirés par l'œuvre de l'auteur. Alors, ça touche différents thèmes abordés par Victor Hugo, soit la pauvreté et les injustices sociales, le travail et la consommation, la réalité en prison et, bien sûr, toujours la question de la résistance. Je vais laisser les artistes présenter eux-mêmes leur processus créatif en vous lisant un petit paragraphe qu'on retrouve sur leur album. Alors, ils disent... Loin d'être une allégeance à un quelconque référent littéraire, nous retenons du père Hugo, réformiste républicain et témoin magistral des soubresauts civils qui a su faire parler son époque, la veine revendicative de notre vouloir à vivre et donc à lutter. Dans notre souhait d'universaliser les questions d'aujourd'hui, le texte « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent », écrit en 1848, fait résonner, 160 ans plus tard, la constance de la lutte d'hier à aujourd'hui, en imaginant nos lendemains. Relire et réinterpréter des textes de Victor Hugo au 21e siècle, ce n'est pas seulement rendre hommage à un immense artiste, c'est aussi s'interroger sur la capacité de la parole et de l'art à questionner le monde et proposer de nouvelles perspectives. En fait, moi, je vous dirais que les artistes ne font pas seulement s'interroger sur la capacité de la parole poétique à questionner le monde, mais ils nous en convainquent totalement parce que toute leur œuvre est vraiment un exemple illustrant de la portée des mots. Il y a une force très vive, très émouvante qui se dégage de cette musique et qui nous invite à faire partie de l'histoire, à vivre notre époque pleinement en tant qu'acteur social, avec nos mots, avec nos gestes, avec nos actions, puisque, comme le disait Victor Hugo, « Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent ». Alors, il faut dire également que je pense que l'originalité ou en fait la force de cette création musicale et littéraire relève en grande partie de la composition du collectif. C'est un quatuor d'artistes et de militants, des personnalités qui ont des parcours complètement différents. Alors, on a deux grands noms de la scène hip-hop française, Jamal et Julien Delmer. Pour ceux qui ne connaissent pas, Jamal, c'est celui qu'on surnomme l'agitateur du rap en France, ancien membre de Kabbal, qui a tourné entre autres avec le groupe Assassin. C'est une figure importante du mouvement de contestation sociale qui s'exprime par le hip-hop et il vient de sortir son premier album solo, Sociopathe. De son côté, Julien Delmer, c'est un slameur avant tout, mais également poète et auteur de pièces de théâtre, et c'est un militant engagé dans la lutte des sans-papiers en France. Pour celles et ceux qui s'intéressent à la poésie engagée, je vous recommande d'ailleurs son premier recueil de poésie. Il en a déjà sorti trois, mais le premier est particulièrement très agréable à lire. Il s'intitule « Nègre ». Ça traite de l'histoire coloniale de la France et du racisme et de la lutte des sans-papiers en France. Ça a été publié en 2005 aux éditions Périplan. Donc, à côté des deux grands noms du hip-hop que sont Jamal et Julien Delmer, on a également Marie-Paul B., comédienne, clown et metteuse en scène. Et un autre très grand nom français, Charlie Boer, pardon, un personnage très particulier. C'est un docteur en anthropologie sociale, un acteur, un écrivain, et c'est avant tout pour les Français un militant d'extrême gauche qui s'est impliqué entre autres aux côtés du Front de Libération Nationale durant la guerre d'Algérie et qui a pratiqué durant de longues années la propagande par les faits en France. Il est connu particulièrement pour avoir longtemps organisé des actions d'expropriation de marchandises à Marseille, donc des vols en d'autres mots, de l'expropriation de marchandises, des détournements de trains pour ensuite redistribuer les richesses dans les quartiers pauvres de Marseille. Alors, vous ne serez pas surpris d'apprendre que, bon, ses idées politiques et ses actions directes lui ont valu 25 ans d'emprisonnement. 25 ans durant lesquels, en plus d'étudier, il a tenté 8 tentatives d'évasion. Et finalement, il sort de prison en 1988. Et 2 ans après, il publie son autobiographie « Fracture d'une vie », qui est vite devenue un best-seller en France. Donc, « Fracture d'une vie » de Charlie Baer. Donc, ce sont ces quatre parcours d'artistes et de militants qui se rencontrent dans le projet « Ceux qui vivent sont ceux qui luttent » et qui vraiment en font la force et la créativité. Et puis, enfin, bon, il faut mentionner le travail de conception sonore qui a été réalisé par le DJ Boulahon. Donc, l'album est sorti en mai dernier en France. C'est sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que c'est une licence libre. Les auteurs permettent la diffusion de leurs œuvres sans utilisation commerciale. Donc, les artistes vous invitent vraiment chaudement à visiter leur site web pour télécharger l'intégralité de l'album, les photos et tout. Donc, ça fait un excellent cadeau de Noël, pourquoi pas. Alors, vous pouvez visiter leur page, c'est myspace.com. www.myspace.com/ceux-qui-vivent www.myspace.com/ceux-qui-vivent Je vais vous laisser avec un deuxième morceau, en fait, qui s'intitule Mouvement 2, toujours de l'album Ceux qui vivent sont ceux qui luttent.
Où vont tous ces enfants? Pas un seul ne rit.
Jusqu'en 1905, la loi permettait d'envoyer les enfants à la mine. Ce n'est qu'à ce moment qu'on interdit le travail en dessous de 8 ans.
Ils s'en vont.
Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Ils vont de l'aube au soir faire éternellement dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous
les dents d'une machine, innocents au bagne, ils travaillent. Jamais on ne s'arrête et jamais on ne joue.
Jamais on ne joue.
Ils ne comprennent rien à leur destin.
Ils ne comprennent rien à leur destin.
Et la malédiction résonne. Si un bon indien est un indien mort, le bon esclave est l'esclave vivant. Notre société du profit n'a plus besoin d'envoyer à la mine l'enfant roi qui est né, bien plus rentable comme consommateur. Qu'elle est fraîche cette chair, abrutie par la pub comme déjà hachée. À vendre, espace publicitaire d'un cerveau nettoyé, pour que être devienne consommé.
Le prince enfant.
Et l'homme lui dessina une prison.
Oh, servitude infâme, imposée à l'enfant. Travaille dans le souffle étouffant, tue la beauté sur les fronts et dans les cœurs la pensée. Travail mauvais, qui produit la richesse en créant la misère, qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Progrès, qui donne une âme à la machine et la retire à l'homme. Que ce travail haï des mères soit maudit, qu'il soit maudit au nom du travail même.
Concitoyen devient consommateur, et sans sommation ne reste que le con. Et c'est par révolte que passe révolution. Non, que procède la révolution. Car la révolte est sentiment, la révolution est raison.
Je m'éloigne de plus en plus des routes balisées de la légalité, empruntant ces chemins caillouteux allant des cimes aux précipices. Tantôt chasseur de temps, tantôt dormeur du val, je suis chassé par les gardiens de l'ordre et du fric. Je ne veux qu'être conjugué au présent, anéantir l'imparfait. Il me faut encore grimper, descendre, et puis vivre, et puis lutter. La décision, le choix, c'est aussi cela. Libre. Et selon le degré de liberté, la chasse s'organise. Le Mistral, ici et là, affole les moulins. Les Don Quichotte sont imberbes et courent la rue, se battent et s'abattent au gré du vent et de l'ordre armé. Face au vent, il faut courber les chines et résister. Résister. Nous étions ce groupe parmi tous les groupes, les bandes, les associations de malfaiteurs, bien sûr, qui chantaient la rue et qui, d'un poing rageur, défiaient l'ordre, les lois, la propriété privée, les valeurs marchandes et quelques autres sacralisées par la domination, l'exploitation.
Tu viens d'incendier la bibliothèque ?
Oui, j'ai mis le feu.
C'est ton propre flambeau que tu viens de souffler.
C'est un crime commis contre toi-même.
Une torche enflammée
dans le passé.
De tout l'esprit humain, tu fais de la fumée.
As-tu donc oublié que ton libérateur, c'est le livre?
Les livres doivent être comme des haches dans la mer de glace de notre esprit.
Il détruit l'échafaud, la guerre, la famine. Car la science en l'homme arrive la première, puis vient la liberté.
Toute cette lumière, c'est à toi, et c'est toi qui l'éteins.
Il est ton médecin, ton guide,
voilà
ton gardien.
Ce que tu perds, le livre, est ta richesse à toi.
La vérité,
c'est le savoir,
la vertu,
le droit,
le devoir, le progrès, la raison. Et tu détruis cela, toi.
Je ne sais pas lire.
Un autre extrait de l'album « Ceux qui vivent, ceux qui luttent » que vous pouvez donc retrouver www.myspace.com/ceux-qui-vivent-ceux-qui-luttent et également sur le blog de En bas à gauche comme le reste de nos contenus enbasagauche.wordpress.com. Alors pour continuer les quelques minutes qui restent à cette édition sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, une petite chronique sur les actions du Frappru, le Frappru qui s'est mobilisé dans le dernier mois, surtout sur la question du logement social, mais c'est une campagne qui est de revendication de 50 000 logements sociaux qui existe depuis des années, puisque ça fait maintenant au-delà de 15 ans qu'il n'y a pas eu de construction de HLM au Québec. Donc, on va avoir une contribution sonore, un reportage diffusé à l'émission Voix de Fée, qui est une émission de Sequoia FM, notre consoeur radio communautaire de Québec. J'en profite pour faire une petite annonce pour eux. Sequoia Radio Basseville Québec est en grande difficulté financière. En effet, les coupures dans le communautaire et la diminution de plus en plus des subventions rendent le travail des radios communautaires difficile. Vous le savez, chaque année à Radio Centre-Ville et ailleurs, on fait appel aux auditeurs pour nous soutenir. Alors, Sequoia fait un appel large, même au-delà des auditeurs de Québec, à devenir membre symboliquement pour soutenir la radio et lui donner l'occasion de continuer d'exister, puisque c'est bien malheureusement là que Sequoia en est rendu. Alors, plus d'informations, www.sequoiafm.org. En attendant, on profite de leur contenu avec ce reportage sur les dernières mobilisation du Front d'action populaire en réaménagement urbain, le Frappru. Ça va parler des événements de début décembre. Je vous compléterai les dernières nouvelles par la suite.
Nous sommes des locataires.
C'est vrai.
Tannés d'être mal logés.
C'est vrai.
Nous voulons des logements.
C'est vrai.
Mais des logements sociaux.
C'est vrai.
Ensemble.
Jeudi le 9 décembre 2010, des militants du Frappru ont occupé les bureaux du ministre Laurent Lessard à Montréal, Québec et Thetford Mines afin d'obtenir une rencontre pour parler de logement social.
Il y en a pas de logement, il y en a pas de logement. S'il y en a, ils sont pas pour nous. S'il y en a, s'il y en a, s'il y en a, ils sont chers, ils sont chers. S'il y en a, s'il y en a.
Véronique Laflamme, porte-parole du Frappru.
Depuis qu'il est en poste, le Frappru l'a rencontré une seule fois, c'était pas longtemps après son arrivée, mais pour faire des présentations générales. Et on se disait, bon, le ministre et son personnel va s'intéresser un petit peu aux problèmes vécus, puis essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les enjeux au niveau du logement, c'est quoi les besoins, qu'est-ce que je peux faire en tant que ministre. Malheureusement, le temps a passé et le ministre n'a toujours rien fait et n'a toujours démontré aucun intérêt ni aucune disponibilité. Donc, il y a eu un premier budget l'an passé qui nous a inquiétés, parce que dans le plan de lutte à la pauvreté, il y a un élément important qui fait partie de la lutte à la pauvreté, c'est le logement social. Et le logement social, il y avait seulement 3 000 unités pour 5 ans, alors que dans l'ancien plan de lutte, il y en avait 16 000 en 5 ans. Et que le ministre le gouvernement de M. Charest et de M. Lessard s'était engagé en campagne électorale à faire 3 000 logements par année sur 5 ans. Là, on se retrouve avec non seulement 3 000 unités pour 5 ans, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Et à chaque fois, à chaque budget, on met le logement dans la balance des choix budgétaires. Mais plus encore, il y a un scandale actuellement au Québec. C'est que, puis c'est dans le reste du Canada aussi, le scandale, c'est qu'il y a des gens qui sont très mal logés et il y en a beaucoup, beaucoup trop. Des gens qui, selon les chiffres même du gouvernement, sont dans une situation de besoin impérieux de logement. On parle de 270 000 ménages locataires au Québec. Donc, ça n'a pas d'allure. Et le ministre, non seulement il fait semblant de s'intéresser à ça, mais il fait comme si ces problèmes-là n'existaient pas. Alors, on lui a demandé une rencontre pour lui parler de nos revendications, pour changer les choses, pour améliorer nos conditions de vie. Et depuis plusieurs mois, dans le fond, il ne répond tout simplement pas aux demandes de rencontre. C'est pour ça que malheureusement, on est rendu à un stade où il faut prendre des moyens plus sérieux pour se faire entendre. Et c'est pour ça que dans les différents groupes, membres du FRAPU, on a décidé aujourd'hui d'aller occuper les bureaux du ministre pour obtenir un rendez-vous. Donc, on reste là. Je vous rappelle qu'à cette semaine, présentement, le bureau de circonscription de M. Lessard sont occupés par l'Association des locataires de Sherbrooke et qu'à Montréal, les gens sont dehors. Là, il y a une manifestation à Montréal et une occupation avec, une, comme nous, là, une douzaine de personnes du bureau là, du ministère de l'Habitat. Donc, on reste là. Là, j'ai vraiment notre appel de l'histoire. Les gens qui se prennent sont partis.
Pour les loyers qu'on peut payer, il faut autre chose que du privé.
Le FRAPU a mis fin aux occupations vers 11h15 après avoir obtenu confirmation d'une rencontre avec le ministre Lessard dans la semaine du 20 décembre. Il doit aussi rencontrer le ministre des Finances, Raymond Bachand, au cours des prochains jours dans le cadre de ses consultations prébudgétaires.
Et depuis la rédaction de ce reportage, on a appris que la rencontre aurait lieu carrément lundi, le 20 décembre. C'est minuit moins une, mais on l'a eu, la rencontre. Aujourd'hui, au Québec, pour rencontrer un ministre, pour lui parler de politique sociale, il faut occuper son bureau. C'est le message. Donc, voilà. Sinon, juste vous dire, la semaine dernière était une semaine occupée pour le Frappru, sans jeu de mots, en fait, avec un jeu de mots poche de ma part. En fait, le jour où il y avait les occupations dans trois bureaux du ministre, il y avait aussi la Société canadienne d'hypothèque et de logement qui rendait public là, son... comment ils appellent ça? Son rapport sur le marché locatif, dans lequel on apprend sans surprise que ça va pas bien. En fait, écoutez, la pénurie demeure vive, y compris dans la région métropolitaine de Québec. D'ailleurs, c'est assez particulier de constater que les médias en ont si peu parlé. Alors, on est à 1%.
Alors donc, le Frappru a finalement eu sa rencontre hier. C'était un 30 minutes. Et donc, pour avoir, comme le disait Nicolas de Voix de Fait, c'est l'émission de Sequoia, ça prouve donc qu'il faut occuper des bureaux pour réussir à avoir de l'écoute un petit peu. Alors évidemment, on ne se fera pas d'illusions sur les résultats. Le gouvernement s'est tout de même engagé à quelques 3 000 logements. C'est bien loin de l'objectif des 50 000, mais c'est toujours ça de prix pour les 10 000 personnes qui sont sur les listes d'attente. Puis là, je vous parle juste du centre de Montréal. Il y a tout le reste du Québec. Donc, c'est cela pour les nouvelles du Frappru. Plus d'informations, frappru.qc.ca, pour être tenu au courant de leurs prochaines mobilisations qui auront lieu en février. C'est également ce qui va conclure cette édition de En bas à gauche. On va vous laisser avec le bel âge sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM pour avoir toutes nos chroniques, pouvoir les rediffuser, les réécouter ou voir des documents liés au sujet qu'on a abordé. Vous pouvez aller visiter notre blog En bas à gauche.wordpress.com ou nous écrire en bas à gauche à riseup.net. Les commentaires sont toujours les bienvenus. Ah, et bien sûr, pour notre webmestre, s'il vous plaît, des commentaires sur le blog, c'est aussi toujours sympathique. Alors, on se retrouve dans 3 semaines pour une émission régulière, mais les 2 prochaines semaines, vous aurez des émissions spéciales qui vont vous être concoctées par votre équipe pour le temps des fêtes, notamment début janvier, un reportage spécial sur Wikileaks. Bonne semaine et à très bientôt.
La saison des fêtes est maintenant arrivée. C'est un temps de réjouissance et de célébration. Si vous sortez faire la fête en famille ou entre amis, laissez donc vos clés d'auto à la maison et prenez un taxi. C'est simple, signalez Dièse Taxi. C'est Dièse 8294 sur votre cellulaire n'importe où au Canada. Célébrez la saison des fêtes de façon responsable. S'il vous plaît, si vous buvez, ne conduisez pas.
Ce message Dièse Taxi vous a été présenté en collaboration avec Éducalcool.
Ici Miles Taylor de Jazz Boulevard. Je vous invite à me rejoindre tous les vendredis à minuit sur la grille anglophone de Radio Centre-Ville pour 2 heures de musique et entrevues du monde de jazz. À vendredi!
Bonjour, ici Claude-Marie Landré. Tous les lundis de 1h30 à 2h, je vous invite à écouter l'émission Trame sonore qui parle de musique de film, musique à l'image. Des entrevues, des découvertes musicales sont au rendez-vous. Ne manquez pas Trame sonore de 1h30 à 2h tous les lundis sur les ondes du 102,3 FM du Pur Plaisir.
Enfin, ma princesse! Qu'est-ce qu'elle est belle. Reviens à toi, mon amour. Mon amour. Princesse. Princesse. Allez, réveille-toi. Princesse.
Quand un enfant ne lit pas, c'est son imaginaire qui disparaît. En novembre et décembre, participez à la lecture en cadeau en offrant un livre neuf à un enfant pauvre. La Fondation pour l'alphabétisation.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.